Classique 21, you rock.
Radio Caroline.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, bienvenue à bord du cargo de Radio Caroline pour une seconde traversée sur le thème « Rire pour résister » mais sous le grand angle aujourd'hui du cinéma. Avec des films qui pour la plupart ont combattu le pire par le rire, à l'instar du Dictateur de Charlie Chaplin, conçu comme une entreprise de démolition par l'humour d'Hitler. L'occasion de revenir sur la genèse de ce film, sa réalisation et les réactions suscitées par sa sortie en octobre 1940, alors que le nazisme règne sur l'Europe. De même, nous nous plongerons dans les intentions de Gérard Houry et les commentaires contrastés suscités en 1973 par son film « Les aventures de Rabbi Jacob » qui cherchait aussi par la bande à questionner l'antisémitisme ambiant. Après quoi, nous nous offrirons une bonne tranche de « Tout simplement noir », formidable film sorti en 2020. Mais tout cela sans se priver d'évoquer par ailleurs quelques films qui, sans être comiques, ont dénoncé les turpitudes du pouvoir avec maestria. Bien sûr, l'histoire du cinéma regorge d'excellents films qui éclairent les pratiques douteuses, scandaleuses, voire mortifères qu'ont eues chefs d'État ou officines gouvernementales dans le passé. Des longs-métrages qui dévoilent ou éclairent en espérant, en sous-texte, que les dérives ainsi pointées ne se répètent pas, qu'on ne s'y laisse plus prendre, voire que l'on n'hésite plus à condamner. Mais d'une part, il ne s'agit pas toujours de comédie et par ailleurs, ces films ciblent parfois rétrospectivement. Tout de même, avant d'en venir à l'arme du rire chargée en temps réel, rappelons, au hasard, Les Hommes du Président, fabuleux thriller politique d'Alan Pakula qui, en 1976, 2 ans à peine après la démission du président américain Richard Nixon suite au scandale du Watergate, et alors que celui qui fut son vice-président est toujours au pouvoir, éclaire les moindres recoins de cette affaire puante. Adapté du livre publié dès 1974 par les journalistes Bob Woodward et Carl Bernstein, le film offre à Robert Redford et Dustin Hoffman les rôles de ces deux reporters qui enquêtent pour le compte du Washington Post à la grande époque de ce journal.
Unit 1 to Unit 2.
What?
We're home.
Base 1 to Unit 1. Base 1 to Unit 1.
Hold it, you mother! Hold it! Police!
There's been a break-in at Democratic headquarters. They were bugging the place.
Woodward. Bernstein, you're both on the story now. Don't f*** it up.
Redford.
I'm Bob Woodward of the Washington Post. Mr. Markham, are you here in connection with the Watergate burglary?
I'm not here.
Hoffman.
Hi, this is Carl Bernstein of the Washington Post, and I was just wondering if you can remember...
All the President's Men. The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy.
Bien plus récemment, en 2016, Spotlight de Tom McCartney racontait, un peu sur le même schéma, la longue et audacieuse enquête menée avec acharnement par des journalistes du Boston Globe sur des suspicions d'abus sexuels au sein de l'église catholique de la ville, alors très puissante.
The Boston priests molested kids in 6 different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case.
No, we haven't.
And that's the kind of thing your team would do.
Spotlight.
En 2018, et toujours dans le même univers, il y aura Pentagon Papers de Steven Spielberg avec Meryl Streep et Tom Hanks, film qui tourne certaines pages méconnues et ensanglantées de l'implication politique et militaire des États-Unis dans la guerre du Vietnam, telle que révélée dès 1971 par le New York Times et le Washington Post.
Do you have the papers?
Not yet.
This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon.
The most highly classified documents of the war.
Mais bien avant tout cela, sur le mode de la satire, du rire et alors que l'effroyable se produisait, il y eut Le Dictateur de Charlie Chaplin. Car si le film est sorti chez nous au printemps 1945, c'est le 15 octobre 1940, au début de la guerre donc, qu'il sera projeté aux États-Unis. Et ce alors que ce pays est encore loin d'être en guerre et que le président Franklin Roosevelt ménage ses arrières. C'est en 1938, deux ans après la sortie de son film « Les temps modernes », qui raillait l'industrialisation à outrance et la déshumanisation ouvrière qu'elle a entraînée, que Charlie Chaplin se remet à écrire. Et il écrit quoi ? Son premier film parlant, en même temps que l'un de ses chefs-d'œuvre, « Le dictateur ». 1938, c'est-à-dire l'année de l'Anschluss, l'annexion forcée de l'Autriche par l'Allemagne nazie, en mars 1938, c'est aussi l'année où, en Allemagne, dans la nuit du 9 au 10 novembre, déferle une vague d'émeutes anti-juives sans précédent sur tout le territoire du Reich, au cours de laquelle des centaines de synagogues et lieux de culte sont détruits, des milliers de commerces et entreprises gérés par des juifs saccagés, une centaine de juifs assassinés, des centaines d'autres se suicident ou meurent des suites de leurs blessures, et alors que des dizaines de milliers d'autres juifs sont d'ores et déjà déportés vers des camps de concentration. C'est ce qu'on appellera la nuit de cristal. Les autorités allemandes tentent de faire croire à une explosion spontanée de colère populaire contre les juifs, alors que bien sûr, ce pogrom a été ordonné par le chancelier du Reich, Adolf Hitler, et organisé par Joseph Goebbels. Une fois le scénario du dictateur écrit, c'est le 9 septembre 1939 que Chaplin entame son tournage, soit 8 jours après l'invasion de la Pologne par les nazis et 6 jours après la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne et de la France à l'Allemagne. Il déroulera les destins presque parallèles mais qui finiront par se croiser dans un pays imaginaire nommé Tomania mais qui ressemble évidemment à l'Allemagne, d'un barbier, Schulz, et du dictateur Adenoïde Hinkel, tous deux interprétés par Charlie Chaplin, le scénario jouant bien sûr de cette ressemblance.
Un Tomania bis ein Strapp, un der Blitzen sagt der Knütz, ein Ifleiner Strapp mit der Ach. Balloni. Balloni war ein Stritz mit seinen Eltern, sagt der Hünd, ein der Strapp mit seiner Klatsch, ey, der Stratz mit seinen Gedanken da, mit seiner Tratsch mit seinen Gedanken, mein einer Täter, wie der Strafen, die Strafen, sie Strafen.
Adenoid Hinkel has just said, yesterday Tomania was down, but today she has risen.
Le régime fasciste italien est également évoqué dans Le Dictateur par le biais du personnage de Benzino Napoleoni, inspiré bien évidemment de Benito Mussolini.
Ah, my brother dictator. You're a nice little man, Hinky. I'm so glad to see you again. And my friend the garbage. Hello. Oh, this is a lovely place. I feel fine. I just had a nice cold shower. And that bathtub, as soon as you get the plumbing fixed, it'll be in a good shape.
Pour en revenir au double personnage principal, il faut savoir que les similitudes entre Charlie Chaplin et Adolf Hitler avaient déjà été pointées à l'époque, notamment par les humoristes. Chaplin est né le 16 avril 1889, Hitler 4 jours plus tard. Les deux viennent d'un milieu modeste avant de connaître, chacun à leur manière, une notoriété mondiale. Et bien sûr, les deux portent la quasi même moustache.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Il faut savoir que quand Charlie Chaplin écrit et prépare Le Dictateur, les États-Unis sont soumis à des forces isolationnistes et antisémites déterminées à maintenir le pays en dehors de la guerre. Jusque-là, note un historien, Hollywood a presque totalement ignoré cette guerre et les prémices de l'Holocauste, à l'exception de quelques rares films qui, le plus souvent, occultaient les fondements antisémites de ce qui se passait en Allemagne, allant jusqu'à qualifier les victimes du nazisme, dans le film « Tempête mortelle » notamment, de non-ariens plutôt que de juifs, alors même que des scènes utilisant ce dernier terme avaient été tournées. De plus, lis-je sous la plume de cet historien, les manias juifs d'Hollywood avaient été sévèrement réprimandés par Joseph Kennedy, alors ambassadeur des États-Unis en Grande-Bretagne, qui les avait avertis que tout film attaquant les nazis ne ferait qu'aggraver la situation des juifs en Allemagne et aux États-Unis, l'Allemagne étant par ailleurs le principal marché étranger d'Hollywood pour la consommation de films. Les manias se plièrent à la menace officieuse de Kennedy et, comme c'était si souvent le cas lorsqu'il s'agissait de religion et d'identité, étouffèrent honteusement toute allusion à ce qui se passait pour leurs coreligionnaires en Allemagne et en Europe. C'est alors, conclut notre historien, qu'arriva Chaplin, géant du box-office, qui n'était même pas juif, avec un film autofinancé, qui non seulement s'attaquait avec audace à Hitler, mais osait aussi aborder le sujet tabou du cinéma, la persécution des juifs. Cela dit, quand le président Franklin Roosevelt apprendra que d'aucuns font pression sur Chaplin pour le dissuader de poursuivre son long-métrage, Roosevelt enverra un émissaire auprès du réalisateur pour l'encourager à continuer son œuvre, espérant que le film terminé puisse inciter les Américains à changer d'avis et à soutenir l'effort de guerre. N'empêche, malgré ces encouragements, au fur et à mesure que Chaplin apprendra la nature atroce des agissements d'Hitler en Europe, il se sentira mal à l'aise avec l'idée d'en faire un film comique. Et l'invasion de la France l'incitera à modifier la fin de son œuvre pour y inclure le célèbre discours final humaniste du dictateur qui est en réalité le barbier ainsi déguisé.
I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone.
La première mondiale du dictateur a lieu à New York le 15 octobre 1940. À cette date, le régime nazi domine déjà presque toute l'Europe. Le film sera bien accueilli par la presse américaine, le New York Times le qualifiant de véritable chef-d'œuvre d'un artiste de génie, ajoutant qu'il s'agit peut-être du film le plus important jamais réalisé. De même, le dictateur rencontrera un vif succès commercial aux États-Unis, même si le public sera décontenancé dans un premier temps, s'attendant à un Charlot moins politique. Pour ce qui est de la Grande-Bretagne, pendant la production du film, juste avant le déclenchement de la guerre, le gouvernement de Neville Chamberlain avait annoncé son intention d'en interdire la projection, conformément à sa politique d'apaisement envers l'Allemagne. Mais en 1941, la Grande-Bretagne, désormais dirigée par Winston Churchill, est entrée en guerre contre l'Allemagne. Le dictateur, autorisé, attira près de 9 millions de spectateurs. Le long métrage sera en revanche interdit dans plusieurs pays d'Amérique latine où sévissent des mouvements de sympathisants nazis et des manifestations au cri de tuer les juifs auront lieu lors de sa sortie dans certains territoires sud-américains, refroidissant au passage l'enthousiasme des autorités américaines pour l'œuvre de Chaplin, les États-Unis ayant des intérêts dans le sous-continent. Adolf Hitler, quant à lui, interdira, on s'en doute, le dictateur en Allemagne et dans tous les pays occupés par les nazis. Mais à titre personnel, piqué par la curiosité, il en aurait fait venir une copie depuis le Portugal. L'histoire rapportant qu'il le visionnera à deux reprises en privé sans que l'on connaisse sa réaction. Sauf une, il aurait ri, une seule fois, lors de la scène du barbier. Quant à Charlie Chaplin, il déclarera bien plus tard « Je donnerais n'importe quoi pour savoir ce qu'il en a pensé ». Ce n'est qu'en 1958 que l'Allemagne de l'Ouest lèvera enfin l'interdiction de projeter ce film. Entre-temps, le dictateur est bien évidemment sorti en France en 1945, devenant le plus grand succès de l'année avec 8 300 000 entrées. Dans son incontournable biographie de Charles Chaplin, Genius of the Cinema, Jeffrey Vance conclut son analyse du film en ces termes. Le dictateur de Chaplin demeure une œuvre magistrale qui mêle avec brio comédie, politique et satire. Il s'agit de l'œuvre la plus ouvertement politique de Chaplin et de la première satire majeure du cinéma. Avant la guerre, déjà, plusieurs films américains, mais aussi un allemand, s'étaient nourris du danger représenté par le Troisième Reich et son chancelier Hitler. À commencer par, en 1933, le testament du docteur Mabuse de Fritz Lang. Lang à qui Joseph Goebbels, ministre de la propagande, avait proposé de diriger le département cinématographique de son ministère. Mais Fritz Lang déclinera et gagnera sans tarder Paris avant de s'installer aux États-Unis. Non sans avoir d'abord réalisé ce testament du docteur Mabuse, dont le héros est un mégalomane criminel, artisan de sa propre volonté de puissance, film considéré comme une sorte de documentaire fictionalisé sur l'état de la République de Weimar.
Sie werden diesen Raum lebend nicht mehr verlassen.
Der letzte Sieg. des Verbrechens ist, eine unbeschränkte Herrschaft des Verbrechens aufzurichten.
En 1937 se tournent aux États-Unis Les aveux d'un espion nazi, long métrage américain qui sortira en mai 1939, 4 mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale et 2 ans et demi avant l'entrée officielle des États-Unis dans ce conflit. Le premier film explicitement anti-nazi produit par un grand studio hollywoodien, la Warner en l'occurrence.
It is no use, doctor. They have the codes, the letters, everything about you too.
Tell the truth. It was only propaganda material I gave Schlager.
You gave Schlager military information.
How do you dare?
We have instructions for you, Grützweit. You are going back to Germany.
Why?
Your actions have become much too dangerous for you to remain here.
We are still in America. I didn't mean anything wrong. Please, I don't want to go back to Germany. I don't want to go back to Germany. I don't want to go back to Germany.
Dans le cas des deux films dont on vient de parler, on l'a compris, il ne s'agit pas de comédie, de rire pour résister, contrairement au court-métrage « You Nazi Spy » projeté en mai 1940 aux États-Unis et emmené par un trio burlesque alors très populaire outre-Atlantique, « The Three Stooges ». L'un parodiant ouvertement Adolf Hitler, le deuxième proposant un mélange de Benito Mussolini et Hermann Göring et le troisième incarnant une sorte de Goebbels. Un rire qui fait réfléchir. C'est ce qu'écrit en 1973 un journal au sujet d'une comédie tentant à sa manière de pointer le fond d'antisémitisme chez le français moyen, les aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry avec bien sûr Louis de Funès.
Vous avez vu Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs.
En tout cas, c'est pas monsieur que ça risquerait d'arriver.
Quoi donc ?
Que mademoiselle épouse un noir.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Que monsieur est peut-être un peu raciste.
Raciste ? Moi, raciste ? Salomon, raciste ! Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palot, vous trouvez pas ? Notre petit bouton.
Et son cheveu sur la langue ?
Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde.
Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif.
Vous êtes juif ? Comment Salomon, vous êtes juif ? Salomon est juif. Oh !
Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin ?
Mais il n'est pas juif.
Ben si.
Mais pas toute votre famille ?
Si.
Histoire de jauger comment le film est perçu à sa sortie en 1973, petit tour de la presse française de l'époque. Les aventures de Rabbi Jacob est le contraire d'un film à message, mais le sourire y naît aussi plus fin et plus digne, lit-on dans Les Échos. Pour Combat, journal qui disparaîtra l'année suivante, la plus grande réussite de Gérard Houry, c'est d'avoir su à la fois se moquer du chauvinisme français en mettant les rieurs de son côté et montrer le folklore juif sans tomber dans la complaisance. Les aventures de Rabbi Jacob sont un miroir tendu à chacun d'entre nous pour une introspection plus intime. À travers le personnage de Victor Piver, blanc et catholique comme tout le monde, Gérard Houry, muni d'un radar subtil, détecte l'intolérance dans le quotidien, dans la banalité des attitudes et des gestes, conclut Combat. Le journal du dimanche avance quant à lui, le film subtilement nous invite à un discret examen de conscience. Quant au monde, sous la signature de Claude Sarraute, il dit « Odieux, arrogant devant les faibles, aplati devant les forts, combinard, lâche, intolérant, cet homme, emporté par ses humeurs et ses préjugés, c'est lui, c'est vous, c'est moi. » Mais pour d'autres plumes, l'humanisme du film de Gérard Houry est bien étriqué et ses modèles caricaturaux, voire douteux. Quand Télérama raille la noble mais peu convaincante conversion d'un Gérard Houry qui se croit obligé de sacrifier au discours humanitaire, Libération ironise, on la voit venir de loin la leçon du film. Il suffit de se déguiser en l'autre pour que s'effacent les préjugés. C'est gentil, mais peu satisfaisant dans le contexte actuel. et d'ajouter « Les méchants sont des Arabes, montrés comme des individus violents et sournois qui font constamment le geste d'égorger le seul Arabe sympathique et le leader révolutionnaire en fuite ». Encore une fois, il s'agit de réactions lues dans la presse de l'époque. Parfois, ces mêmes journaux ont revu leur jugement par la suite. Justement, le racisme à l'égard des Arabes auquel faisait allusion Libération, comment est-il contré ce racisme, raillé, moqué au cinéma ? Avant de voir, via la comédie, comment le cinéma s'est moqué ou se moque du racisme dont les Arabes sont les cibles, rappelons qu'il y a eu en 1975, dans un genre pamphlétaire, cuisant et sombre, l'excellent Dupont-Lajoie, inspiré d'une histoire vraie réalisée par Yves Boisset et que j'avais évoqué la saison passée dans un épisode dédié à ce réalisateur, épisode toujours disponible sur les plateformes et que je vous recommande. Comme chaque été, Georges Lajoie, un cafetier parisien incarné par Jean Carmet, passe ses vacances dans un camping du Midi. Auteur d'une drague lourde qui tourne au viol puis au meurtre accidentel de la jeune Brigitte, Isabelle Huppert, Lajoie déposera le cadavre à proximité du baraquement d'un chantier où travaillent des immigrés algériens dans le but de les faire soupçonner.
Putain, moi, si j'étais à sa place, j'aimerais t'en dire qu'il s'en tirerait pas comme ça, les bignous, là.
De toute façon, la police est bien là pour s'en occuper.
La police.
Allez, chouette, la police.
Police, toi.
On tue la fille de Colin, lui, il va se coucher, lui.
Exactement.
Vous savez pas ce que vous dites. La nuit, la police n'a pas le droit d'enquêter. Ou alors il faut un mandat.
Quel mandat ? Dis donc, le mec, il a descendu sa môme, il en avait un mandat, lui.
Autrement dit, on peut se faire tuer. Mais les assassins, faut pas les réveiller.
Voyons, messieurs, laissez-lui le temps de faire son enquête.
Faut dire qu'avec les Arabes, il est pas allé chercher bien loin.
Bon, absolument, mais je suis absolument d'accord avec monsieur. Moi, j'étais pas au bal l'autre soir, mais on m'a raconté quand le Benzobi, il a emmerdé sa môme à Colin. Et merde, s'il est aussi fort que ça, pourquoi il les arrête pas tout de suite ?
Il faut faire confiance à la police. Elle a sûrement ses raisons.
Oui, alors vous voulez que je vous dise ses raisons à la police ? Quand ils ont affaire à des Arabes, ils les ont comme ça.
Ah, ça les fric avec les Arabes, hein, ils mouillent leurs pantalons.
C'est lui. Il danse autour de la titre.
Je suis là, Lajoie.
Comme je l'avais rappelé dans cet épisode toujours en ligne, lors du tournage de ce film, Yves Boisset et son équipe seront menacés de mort par des militants d'extrême droite. Dans une veine comique, cette fois, plusieurs films récents ont cherché à secouer par le rire les préjugés à l'égard des Arabes, mais pas toujours de façon convaincante d'un point de vue cinématographique ou commercial, à tout le moins, comme « Il était une fois dans l'Oued » ou « Camping à la ferme ».
Mais c'est beau, la France, c'est beau. Il y a des millions de gens qui rêvent de venir ici, et vous...
Ils vont foutre le bordel, les racailles.
Ah, monsieur Belramec.
Oui, enfin, Belkacem.
Allez, loin la cité, hein.
On va faire du camping à la ferme.
Oh, c'est pas possible, vous dormez encore. Allez, bande de petits salopards.
Qu'est-ce qu'on doit faire, là?
Le remettre en état, quoi.
Ah, mort, moi, je vais pas là-dedans. Un musulman ne peut pas toucher ce clocher avec ses mains purifiées.
Enfin, pour ce qui concerne le racisme anti-noir, ne pas oublier, en 2020, Tout simplement noir, un faux documentaire hilarant signé Jean-Pascal Zadi et John Wax, une comédie gorgée d'autodérision qui, sous couvert d'une recherche de l'identité noire en France, étrit de façon savoureuse autant que mordante les clichés sur les noirs et le communautarisme.
Je suis noir,
grand.
Voilà. Je suis noir.
Martin Luther King.
Je suis nègre.
Malcolm X.
Je suis un putain de nègre.
C'est ça.
Il faut qu'on soit soudés.
Ta marche, c'est une initiative de dingue.
Quelle marche?
Les blancs sont interdits à ta marche.
Ils sont pas interdits.
Pas interdits, mais c'est pas conseillé.
Ils sont pas conseillés.
Ouais. Non, ils vont pas se faire frapper du tout.
Il y aura pas une bonne ambiance.
Voilà.
Je vais faire une marche, moi, de mon côté, avec les Indiens.
Soirée entre nous.
Vous niquez votre marche de renom.
C'est hyper excluant.
On a des imams qui soutiennent.
Non, fais pas ça. Tu sais très bien, les imams, c'est pas good vibe.
Quoi?
Non, pour le coup, il a pas tort. C'est pas super ambiance. Tiens, j'invite à mon anniversaire 5 imams. On va pas mettre une ambiance de ouf. Non, c'est vrai, en termes d'ambiance.
C'est pas un noir, ça.
Je vous demande l'Afrique, vous me ramenez Montreuil.
Notre voyage tout en rire de résistance se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à l'étoilé. Belle journée ou bonne nuit. Radio Caroline.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.